Les douze n'ont rien compris à ce que Jésus leur a dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et c'est pourtant déjà pour la quatrième fois que les siens entendent Jésus-Christ leur annoncer sa passion. La première, c'était après la confession de Saint-Pierre. La seconde, a suivi la transfiguration. Et la troisième, après la guérison du lunatique. Quelques jours à peine les séparent de la mort du Sauveur. Celui-ci monte à Jérusalem, entouré de ses apôtres, d'autres disciples et, comme d'habitude, d'une foule énorme. Il y monte pour la dernière fois. Jésus prend à part uniquement ses apôtres, qui lui sont les plus chers, les mêmes qui, plus tard, prêcheront au monde entier le mystère de notre rédemption. Mais, pour l'instant, ils n'y comprennent rien. D'où venait cette incompréhension? En partie, parce que le moment où ils devaient tout saisir n'est pas encore arrivé. Il faudra attendre le jour de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. En partie, leur entendement était comme fermé, car ils plaçaient leur espérance là où il ne fallait pas. À vrai dire, qu'est-ce qu'ils attendaient du Messie? En vrai membre du peuple élu, le Messie, c'était comme un héros de bande dessinée qui rendrait à Israël tout son éclat d'autrefois, qui jetterait aux pieds de ce petit royaume de rien du tout le monde entier. Et cela n'a pas beaucoup changé depuis lors. Déjà, ces apôtres se disputaient les places dans le gouvernement d'Israël, futur gouvernement mondial. Qui sera le président, le ministre de la guerre et, le plus important, le ministre des finances? Tous ces préjugés étaient comme, pour les apôtres, comme des idées fixes, desquelles ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et, en face de cela, que fera donc leur maître qu'ils croient être vrai Messie? Il va décevoir leur espérance. Écoutons les deux disciples retournant à Emmaüs le soir de Pâques. Sous Jésus de Nazareth, on y sent la note de déception. Sous Jésus de Nazareth, disent-ils. C'était pourtant un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu comme devant tout le peuple. Comprenons bien, il a prouvé par des miracles que c'était bien lui le Messie, Messie national. Et il continue, « Nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort. On l'a crucifié. » Écoutons maintenant. Pour nous, nous avions pourtant l'espoir que ce serait lui qui délivrerait Israël. Enfin, il parle de l'essentiel. Et ils finissent. Et puis voilà que tout se termine à rien, par un échec. Chers fidèles, ne jugeons pas si vite ces pauvres gens et demandons-nous où plaçons-nous notre espérance. Espérons-nous vraiment en notre Sauveur? À la fin de la quatrième prédiction de la Passion que nous venons d'entendre, notre Seigneur encourage ses apôtres en leur parlant de sa résurrection. Résurrection qui suivra de très près sa mort. Et le troisième jour, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, ressuscitera. Cette annonce, plein d'espérance, s'adresse aussi à nous tous. Nous pouvons espérer en Jésus-Christ puisqu'il est ressuscité. Mais puis-je trouver déjà dans la passion même du Sauveur, sans attendre le troisième jour, quelques signes, quelques motifs, un gage de mon espérance? Oui, bien sûr. Plaçons-nous seulement par la pensée entre Gethsémani et le Golgotha, et nous allons voir que tout y est rempli, saturé d'espérance. Mais d'abord, pour le mieux comprendre, considérons deux aspects comme deux faces d'une même médaille. Il y a d'abord dans la passion du Sauveur quelque chose d'extrêmement humain. C'est ce que tout le monde voit, qu'il soit croyant ou incroyant. Pilate même l'avoue en présentant à la foule ameutée le pauvre Jésus. Jésus flagellé, couronné d'épines, présentant à peine une forme humaine, jusqu'à ce que Pilate crie plus fort que la populace, « Voilà l'homme !» Voilà l'avers de la médaille, médaille qui a aussi son revers. C'est que, en même temps, tous les actes de ce drame sont rehaussés d'un esprit qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas humain, d'un esprit d'éternité. Ma vie, disait notre Seigneur, ma vie, personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Aucun homme qui a toute sa tête ne peut parler de la sorte. Dans ce gisant de Gethsémani, dans ce bafoué du prétoire, dans ce moribond du calvaire, il y a tout simplement une personne divine. Elle mène tout, elle assume tout, elle relève tout, et au moment même où tout semble crouler au plus bas. Passons maintenant en revue les moments clés de la Passion. Juste trois scènes. Et dans chacune d'elles, à tout instant, il y a l'homme et il y a Dieu. D'abord, l'agonie de notre Seigneur. Il est seul la nuit dans le jardin avec les trois témoins, les mêmes qui l'ont vu transfiguré. Et ce soir, ils le verront autrement transfiguré, anéanti. On n'aperçoit pas de bourreau, et déjà la victime est tourmentée et dans son corps et dans son âme. C'est la sueur du sang, c'est le frayeur qui l'accable. Voilà l'homme. Toutefois, on entend un colloque mystérieux, colloque avec Dieu le Père, qui nous révèle qui est Jésus et qui nous fait comprendre l'étendue et l'enjeu de la passion. L'enjeu, c'est nous. L'étendue, c'est toute la multitude d'hommes que le Sauveur veut conquérir par son amour, quoique tous ne le veuillent pas. Voilà ce qui le frappe, voilà ce qui le torture. À l'instant même de son arrestation, Jésus-Christ demande aux soldats qui accompagnent Judas, « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, c'est moi. » Et à ces mots, la soldatesque recule et tombe par terre, renversée par une force invisible, irrésistible, divine. Voyons maintenant notre Seigneur dans sa passion proprement dite. Toutes les puissances du mal, perceptibles ou non, se déchaînent et Jésus-Christ finit par avoir tout le monde contre lui. Quand Caïphe l'accuse, il garde le silence, comme s'il était coupable. Mais quand on le force de dire s'il est le Fils de Dieu, il l'affirme avec toute l'autorité de ce Fils de Dieu. Il se laisse juger et condamner, et cependant il annonce qu'il viendra un jour juger lui-même ceux qui le jugent. Et il mourra pour avoir dit cette parole. Cela pour l'autorité juive. Et quant à celle romaine, Jésus se laissera condamner par Pilate. Mais celui-ci, en condamnant le roi des Juifs, sera forcé de reconnaître son innocence. Dirigeons à la fin nos regards vers le sommet. Jésus en croix. Il est suspendu en l'air, aux vues de tous. Cloué, il ne peut faire aucun mouvement. Il ne peut qu'embrasser tout le monde, disons le monde entier, de son regard. Enfin leur adresse-t-il quelques mots, avant de verser la dernière goutte de son sang. À vue humaine, Jésus en croix n'est qu'un vaincu. Mais en réalité, c'est à ce moment précis qu'il est vainqueur. Dressé entre ciel et terre, comme un pont, les sept paroles tombent de ses lèvres, citant ici celles qui affermissent le plus notre espérance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Seigneur prie pour nous. Au même moment où nous, par les mains des bourreaux, lui perçons ses mains et ses pieds. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est déjà la réponse à notre supplication de se souvenir de nous quand Jésus viendra dans son royaume au ciel. Femme, voilà votre fils. Mon fils, voilà ta mère. Le Sauveur nous confie ce qu'il a de plus cher, sa mère et la nôtre, notre co-rédemptrice, comme si nous en étions dignes. Enfin, après son grand cri, Père, je remets mon esprit entre vos mains, après que la terre tremble, le centurion, voyant tout ce qui se passe, saisi de frayeur, rend ce témoignage, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Homme et Dieu, l'un à côté de l'autre, ont la même personne divine. C'est là que tout le mystère, l'avers et le revers formant une seule médaille. C'est cette union, union inséparable, éternelle, qui fait que la croix de notre Seigneur est notre espérance. Jésus-Christ se présente dans la Passion comme quelqu'un qui est absolument sûr de ce qu'il fait. Pas de surprise possible. Il est véritable sauveur et, si l'on peut dire ainsi, le sauveteur qui tout seul se précipite au plus bas fond de notre misère. Et là, il va nous porter le secours de sa divine miséricorde. Ce Dieu puissant et miséricordieux est le fondement solide de notre espérance. Prenons donc, chers fidèles, pour le carême qui approche, quelques résolutions. Prenons le temps de relire dans les évangiles, avec ou sans commentaire, le récit de la Passion. Compatissons aux douleurs du Sauveur, aux tourments et jusqu'à la mort la plus affreuse, la plus avilissante du monde, qu'il supporta dans son âme, dans son corps, pour nos péchés. puis efforçons-nous de reproduire les vertus que Jésus y exerça. Humilité, courage à accepter les contradictions, les croix grandes et petites qui font partie de la grisaille de chaque jour. Courage, mais aussi fidélité, persévérance en accomplissant tous nos devoirs d'État, malgré les difficultés et les ennuis. Nous n'allons bien sûr pas oublier à nous imposer quelques pénitences, quelques mortifications, comme les jeûnes alimentaires ou numériques. Enfin, mettons-nous sous la protection de la Sainte Vierge, patronne du bon carême. Invoquons-la sous le beau titre de Notre-Dame de la Sainte Espérance. Par exemple, en disant « Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.